Moi, je suis Xavier Buff et je suis professeur de mathématiques à l'Université de Toulouse et membre du conseil de l'association.
Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais vous présenter un peu le dispositif et puis on va vous faire un peu travailler. Et puis Xavier va intervenir pour vous montrer son regard de chercheur autour du dispositif. Je fais comment ? Alors, l'association, c'est une association qui est composée d'enseignants du premier degré, second degré, de chercheurs, de doctorants, d'ingénieurs. Et puis, c'est ce qu'on fait un peu. On a donc le dispositif Regard de Gênes dont je vous parlais, et puis différents dispositifs, dont un festival de mathématiques qu'on organise dans la région Occitanie. Alors, le dispositif Regard de Gemet existe depuis 5 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment faire découvrir les mathématiques à travers le monde de la recherche et le monde artistique. Donc il y a différents... je vais vous montrer les objectifs et je vais faire le lien avec le parcours éducation artistique culturelle. Donc si, pour les enseignants, vous allez découvrir qu'il y a vraiment un lien, on peut, nous, en tant qu'enseignants, porter des projets parcours éducation artistique culturelle grâce aux mathématiques. Alors, avant de débuter, le dispositif existe aussi dans l'Académie de Bordeaux, et voici les partenaires qu'on a dans l'Académie de Bordeaux. Donc l'IREM, le groupe Arémat, est partenaire de ce dispositif. Ils ont travaillé avec le musée de Samadé sur une thématique, faire travailler autour des assiettes céramiques. Donc il y a eu une fiche qui a été réalisée par le groupe IREM. Et puis Marilyn intervient en tant qu'intervenante scientifique. Donc voilà tous les partenaires de l'Académie de Bordeaux pour ce dispositif. Alors, donc, le dispositif, c'est une classe ou un club, un enseignant, une enseignante ou une équipe pédagogique, un chercheur, un intervenant chercheur, un intervenant scientifique et artistique. Et donc l'objectif, c'est de faire découvrir auprès des élèves, sensibiliser les élèves, que les mathématiques, on le trouve aussi dans le monde artistique, et que parfois il y a la même démarche. Donc vous pouvez... et si on regarde un peu le programme, on demande de développer et de renforcer les mathématiques à travers les autres disciplines. On parle de travail collaboratif. Donc ce dispositif, c'est vraiment ça, c'est travailler collaboratif, montrer les mathématiques à travers le monde artistique, et la classe devra réaliser une œuvre artistique. Donc pour pouvoir faire ce projet, je vous en parlerai tout à l'heure, je vais d'abord insister sur le parcours éducation artistique pour faire le lien entre le parcours éducation artistique et ce projet Regard de géomètre, ce dispositif. Qu'est-ce que le parcours éducation artistique culturelle ? Donc c'est un des parcours qui est proposé aux élèves. Et il y a trois choses à réaliser, qui est d'abord une rencontre, une pratique, et puis développer une connaissance. Dans le dispositif Regard de géomètre, on va retrouver ces trois points, qui est donc rencontrer un professionnel, donc ça peut être dans la classe, ou aller vers le professionnel, ou découvrir un spectacle, etc., ou une œuvre. La pratique, il faut qu'il y ait une réalisation collaborative des élèves, vers une production qui peut être artistique ou non. Ça peut être aussi un article écrit, une presse, une web radio. Ça fonctionne aussi comme réalisation. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de développer des connaissances autour de ces œuvres, etc. Et vous allez voir que dans le projet Regard de géomètre, on retrouve vraiment ce parcours d'éducation artistique culturelle. Alors, les élèves ou l'enseignant va choisir un thème. Il y en a 60, je vous les montre tout à l'heure. Ils vont explorer avec... d'abord, on va faire appel aux connaissances des élèves sur ce mot qu'ils ont choisi. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ce mot dans la vie de tous les jours, en classe? Qu'est-ce qu'ils ont appris en tant qu'élèves? Et l'enseignant va aussi proposer, nourrir leurs connaissances par des activités mathématiques en lien avec leur programme. Ensuite, on va s'appuyer d'un regard mathématique d'un intervenant chercheur, doctorant, ça peut être aussi un formateur qui adore faire de la diffusion de la culture mathématique. Et puis, on va aussi s'appuyer sur l'artiste, Et puis les élèves doivent décider de l'œuvre qu'ils veulent réaliser, sachant que c'est toujours à travers le monde artistique. Je parle de tous les arts, c'est-à-dire les arts et les métiers d'art. Je vais vous faire une liste, je vous montrerai la liste. Et on doit représenter, les élèves, de façon collaborative, doivent représenter leur regard sur ce mot, c'est-à-dire regard mathématique à travers une réalisation artistique. Donc ensuite, on proposera d'exposer dans un espace culturel, donc une médiathèque, un musée. Pourquoi un espace culturel ? Parce que dans un espace culturel, c'est ouvert au grand public. Donc on touche les élèves, les enseignants, les familles, mais aussi le grand public, parce que c'est exposé pendant une semaine dans un espace culturel où tout public peut découvrir ce nouveau regard des mathématiques avec le monde artistique. Les mots, les voici. Il y en a 60. On va vous demander de travailler sur 3 mots tout à l'heure. Et donc, voilà, vous avez réalité augmentée, très centre-là, astrolabe, nœud, coquillage, pour montrer qu'on peut travailler avec les autres disciplines, cubisme, etc. Ce projet commence on le propose de la maternelle au lycée. Donc ça peut être des élèves de maternelle, comme ça peut être des élèves de lycée qui travaillent sur ce projet-là. Donc on a des clubs. Cette année, on a une centaine de classes dans ce projet. Alors,
ça c'est Xavier, tu peux...
Voilà, c'est toi, Pixel en 3 dimensions. Pixel en 3 dimensions. Voilà. Et il y a une classe qui l'a choisi cette année. Une classe sur Paris qui a choisi ce thème voxel. Alors, les possibilités de réalisation, c'est à travers, donc quand je dis les arts... Quand on parle aux enfants du monde artistique, souvent ils s'arrêtent soit au dessin, peut-être la BD, manga encore, et musique, parce qu'ils ont ça en classe peut-être. Et donc on leur dit, non, tout est possible. C'est-à-dire que ça peut être une scénette, ça peut être un conte, ça peut être de l'art culinaire. On a eu, nous, une année, un buffet mathématique. Ça peut être une œuvre numérique, une BD. Voilà, donc c'est et les métiers d'art. Ça peut être la mode, un défilé de mode... On a eu l'an dernier dans cette académie un ébéniste qui est intervenu dans une classe. Donc vraiment, c'est très large. C'est vraiment tous les arts. Et donc, grâce aux mathématiques, on amène aussi une culture auprès des élèves pour découvrir tous ces mondes artistiques. Donc on a fait un document pour indiquer le rôle du scientifique. Donc lui, il va apporter son regard expert mathématiques sur le mot, puis en même temps il va faire le lien avec le monde artistique. On a tous une sensibilité par rapport aux arts. On a chantonné, on a dessiné, avant même de compter, on a dansé, je ne sais pas, quand tout petit. Donc on est tous différents. Donc vous imaginez une classe, 30 enfants, avec tous leurs sensibilités complètement différentes, cultures complètement différentes, et ensemble, à partir de leur sensibilité, on va essayer de créer une production. Le chercheur intervenant, comme l'artiste, a aussi cette sensibilité qui est complètement différente. On peut avoir le même thème dans une classe, avec un chercheur A qui vient, puis un autre chercheur B qui vient pour le même projet, on n'aura pas la même œuvre. Parce que c'est pas ils ne vont pas présenter le même regard artistique, mathématique. Et puis après, il y a une relation qui se met avec le chercheur et l'artiste. Ça, c'est si le chercheur ou l'intervenant scientifique peut le faire. Donc on considère aussi, par rapport à l'emploi du temps, les possibilités des uns et des autres. Et l'artiste, lui, va faire découvrir son métier, ses œuvres, et puis apporter une technique auprès des élèves. Voilà. Donc, et on essaye de mettre en relation, si possible. Donc, on progresse dans notre production, genre dans le dispositif. Les premières années, c'était sans artistes. Les artistes, on les fait intervenir depuis 3 ans. Et puis, maintenant, on essaye de voir s'il y a possibilité de faire au moins, il y a un échange entre le scientifique et l'artiste. Quand il y a eu toutes ces productions, quand il y a eu tous ces intervenants, il y a une production qui est réalisée. Et après, les élèves doivent remplir ce qu'on appelle un cartel. C'est-à-dire, quand vous allez dans un musée, vous avez la production artistique, puis vous avez une petite carte à côté qui explique qu'est-ce que l'artiste a voulu représenter. Donc nous, on demande aux élèves de nous remplir un cartel. Ils doivent mettre les 4 regards, c'est-à-dire leur regard à eux mathématique, leur regard artistique, pourquoi avoir fait une sculpture pour le mot spirale et pourquoi pas avoir fait une BD. Donc expliquer un peu le sens. Et puis après, ils indiquent le regard scientifique. Qu'est-ce que le scientifique a apporté dans son intervention. Et le regard de l'artiste, qu'est-ce qu'il a apporté. Ils doivent donner un nom à leur œuvre. aussi choisir un nom. Et donc, et quand il y a ce document qui est envoyé en doc, nous, on le transforme en petite fiche cartel, comme celle-ci, qui est exposée à côté de l'œuvre. Et là, par exemple, il y a le titre, Illumat. Le thème choisi était Illusion. Ils ont eu comme artiste la conteuse Marie Lhuissier, qui est venue leur parler de Fractal, et un intervenant de l'association Christophe Rabu. Les élèves ont travaillé sur les illusions avec leur classe, et avec leur ensemble, ils en ont créé, et puis ils ont essayé de faire un livre en accordéon. Et chaque dessin d'illusion est associé à une phrase mathématique pour exprimer leur ressenti sur les mathématiques. Ils auraient pu faire autre chose, mais c'était un choix de la classe. Et l'idée du livre accordéon, parce que c'est une jeune fille de la classe qui avait ça. Donc elle l'a amené en classe, elle a dit, ah, ça serait que, voilà, l'idée vient de une des camarades de classe. Donc tous les productions, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Donc là, j'ai mis quelques ensembles de productions. Voilà, donc les assiettes de Samadé, le cube de Menger en origami, une danse sur le thème spirale. On a eu de la danse, on a eu... voilà. Et puis là, c'est quelques images. Genre, mais vous pouvez aller sur le site, on a mis toutes les productions. Donc vous avez des productions de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc c'est assez riche. Comment on accompagne dans l'association? Et après, on va passer par votre... Il y a une équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices dans les différentes académies. Ici, sur l'Académie de Toulouse, c'est un prof du premier degré auquel on accompagne, qui échange avec les porteurs de projets, voir leurs besoins, leurs difficultés rencontrées, puis ils reviennent vers l'association. On réunit les porteurs de projets en début de projet pour expliquer un peu la note de cadrage, etc. Donc, comme j'ai dit, l'appui d'un scientifique. Alors, comment on trouve les scientifiques? On contacte nos partenaires, les IRM, les universités, les labos. On a aussi des enseignants du secondaire qui interviennent parce qu'ils ont une sensibilité sur la diffusion de la culture des maths. Donc, ils interviennent aussi dans les classes. Donc là, je parle de l'appui de l'IRM de Bordeaux avec le musée céramique. On prend en charge... L'artiste. L'artiste n'intervient pas bénévolement, donc ça a un coût. Donc on fait des appels, on répond à des demandes de subventions pour pouvoir payer les artistes. Quand l'université, des chercheurs ne prennent pas en charge leur déplacement, on va rembourser le déplacement. Et après, il y a eu un site de Regard Géomètre 2015 qu'on va retravailler. Donc c'est en train de retravailler, donc ça fait une partie d'une ressource. Il y a toutes les productions des années précédentes. Et puis, sur Twitter ou Instagram, etc., il y a un hashtag Regard de Géomètre auquel on met en référence des œuvres ou des artistes, des projets possibles, des réalisations possibles. Et puis, en 2022, on espère, 2022-2023, avoir une brochure pour les enseignants, comment travailler avec ce projet en classe, et une expo qui serait prêtée gratuitement aux classes. Et donc, sachant qu'il y a eu ce projet, on l'a proposé de façon européenne. Et donc, on a un projet Erasmus qui est en lien avec ce projet Regard de Géomètre. Donc, il y a des classes en Europe qui travaillent sur ce projet. Donc, avec ce logo-là. Et donc, il y a une première réalisation qui serait dans la brochure. Par exemple, sur le thème fractal, on explique ce que c'est. Puis, on va proposer des activités qu'on peut faire en classe, le matériel qu'il faut, etc., en lien avec le programme. Voilà, donc j'ai essayé d'être rapide, parce que je voudrais qu'on puisse... Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc là, on vous propose, il y en a 60, donc ce qu'on va vous proposer, vous êtes bien d'accord, c'est de réfléchir sur les trois mots, balle et ballon, architecture spirale. On vous laisse quelques minutes, les cinq, je sais pas le temps, je connais pas le temps, donc il est quelle heure ?
2h32.
C'est bon, j'ai parlé vite. Voilà. Donc je vous demande de. Vous pouvez travailler en petits groupes. En amphi, c'est pas simple, mais on va essayer de le faire. Vous êtes. Voilà. Vous choisissez un des mots, soit balle et ballon, soit architecture, soit spirale. Et vous essayez de réfléchir sur qu'est-ce qui vous évoque, déjà. C'est ce qu'on propose aux élèves. Qu'est-ce qui vous évoque ce mot-là, avant même d'amener des connaissances mathématiques à travers ce mot. Quel est le lien avec le réel? Est-ce qu'il y a des notions géométriques associées? Et par rapport à... Quelle est l'approche géométrique dans ce contexte, c'est-à-dire dans un projet art et mathématiques? Voilà, donc on vous laisse quelques minutes. Allez, c'est parti, feuille de stylo. Et on va demander une petite restitution, deux, trois personnes, s'ils peuvent nous... Une personne qui fait bas les ballons venir nous dire ce qu'ils ont...
Bon, alors on va essayer de mettre un petit peu en commun. Donc la partie la plus difficile, y a-t-il des volontaires pour venir parler du thème spirale ? Qui a pris le thème spirale pour discuter, pour échanger sur le thème spirale ? Alors est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut venir donner quelques idées ? Oui, mais c'est pas grave, parce qu'en 5 minutes, il n'y a pas eu grand-chose de trouver. Allez, venez ici. Ouais. Avec le micro, comme ça, c'est enregistré.
Alors, ce que ça m'évoque, eh bien, alors j'ai vraiment joué le jeu, hein, c'est-à-dire directement d'éventuelles des guirlandes, ce qui est quand même pas du plus scientifique qui soit, des guirlandes, je sais pas pourquoi. Ça doit être la période approchante. Le génome, bien sûr, ça m'a fait penser. Et puis ce fameux mot que j'avais appris fut un temps de progression spiralée, donc dans ma progression, mes progressions scolaires, en fait, tout simplement. Voilà à peu près les premières évocations. Le lien avec le réel, bah, c'est à peu près ce que ça m'évoque, en fait, tout simplement. Et les notions géométriques, bah, y a bien sûr la spirale d'Archimède qui revient. Et j'étais en train de regarder les équations, tout simplement, parce que je ne les enseigne pas, je ne me rappelle plus des équations, des spirales. Voilà, j'en étais à peu près là. Okay, qu'apporte une approche géométrique dans ce contexte de pouvoir les dessiner sous équations.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter, dans ceux qui ont réfléchi au thème, là-bas, ou...
Les suites.
On avait évoqué les spirales de Fibonacci, donc tout ce qui était suite, les coquillages, construction. On parlait de spirales, on parlait de quoi est-ce qu'on avait évoqué aussi pour les constructions
en trois dimensions.
Voilà, tu parlais de danse, enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire.
Ok, très bien. Alors ensuite, sur le thème architecture, qui a discuté du thème architecture ? Pas beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous donner quelques éléments ?
C'est très bien, toi. C'est très, très bien, toi. Vas-y. J'ai envie de parler au micro.
Vas-y. Bon, alors, pour tout ce que ça nous évoque, eh bien, en fait, ça a été directement avec le lien avec le réel, puisqu'on a pensé à Le Corbusier avec la cité radieuse à Marseille. On a pensé aux pyramides, à l'Arche de la Défense... le fort Vauban, enfin les forts Vauban, le phare de Cordouan, plus proche de nous, toute cette nouvelle architecture liée avec l'écologie et le biodéveloppement. Voilà, exactement. Et puis les ouvrages d'art, enfin bon voilà, donc c'est arrivé assez naturellement et donc effectivement tout de suite le lien avec le réel puisque c'est concret, voilà. Les notions géométriques associées, tout ce qui est perspective, tout ce qui est évidemment les solides dans l'espace, les échelles, agrandissement, réduction, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Les approches, l'apport d'une approche géométrique, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit ?
La représentation.
Ah oui, la représentation, voilà, représentation.
Oui, j'ai entendu là devant les maquettes avec les échelles, ça va avec. D'autres personnes qui veulent compléter, donner d'autres éléments que ça leur évoque ? Non ? Et alors, la grande majorité, visiblement, a pris balles et ballons. Qui a pris balles et ballons ? Ou les gens n'osent pas se désigner ? Ça fait jamais 100% des personnes. C'est pareil chez mes étudiants. Donc, qui est-ce qui veut prendre la parole pour balles et ballons ? Pour présenter quelque chose ?
Alors sur balles et ballons, on est parti sur plein de petites idées. Donc on a parlé du billard avec l'étude des trajectoires des boules de billard. On a parlé de rebond, de polyèdre, de la footbaleine, parce que ballon de foot, de pavage, de patron, puisqu'on a parlé de polyèdre, des méthodes de cavalierie pour approximer le volume, pour déterminer le volume de balles et de ballons. Du point de vue artistique, on a parlé de chronophotographie, et notamment avec l'idée de retrouver les courbes associées à ces images qu'on retrouve avec la chronophotographie. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Je fais un résumé très court. Et on pourrait aussi parler d'optimisation, notamment de problèmes d'encombrement. Quand on place des ballons, comment est-ce qu'on réduit l'encombrement, etc.
Ok, d'autres personnes qui veulent compléter après cet énoncé bien fourni ? J'en ai pas mis autant dans mes diapositives. C'est bon, je pourrais en rajouter quelques-unes. D'autres commentaires, non ? Alors moi, ce que je vais faire, voilà, je vais pas apporter énormément, mais je vais vous montrer un petit peu quand je suis chercheur et que je vais dans les classes justement pour discuter du thème. J'ai toujours une première phase là où je discute avec les enseignants avant d'aller dans la classe pour proposer ce que je peux raconter et pour essayer de l'adapter. Alors évidemment, c'est toujours un peu plus dur quand on va en maternelle. En petite section de maternelle, où rien m'a envoyé en petite section de maternelle sur balles et ballons. Parce que c'est pas toujours évident. Voilà, il y a des problèmes de vocabulaire. Et puis même pour compter, quand on fait des maths, alors on arrive à faire des choses quand même, hein, sur balles et ballons. Alors je ne sais plus dans quel ordre je les ai mises. Je crois que ça commence par balles et ballons. Alors, où est-ce que... Voilà. Non, ça commence par architecture. Voilà, donc pour l'architecture, je suis parti, comme vous, de choses réelles. Et là, moi, la première chose que je vois en tant que... voilà, c'est la symétrie. Ce n'est pas marqué, mais c'est sur la page d'après. Moi, la première chose qui me frappe en général, c'est des symétries qui ne sont pas forcément des symétries axiales. Ça peut être des symétries par rotation. On peut dire aussi, on peut avoir, quand je parle de ça, j'en parle aussi avec mes étudiants à la fac parce qu'on a une UE Mathéar, et il y a la modélisation qui vient derrière, parce qu'évidemment, cette figure n'est absolument pas symétrique. Vous voyez immédiatement, enfin, symétrique par rotation, parce qu'on a des rajouts en bas, et puis même au niveau des motifs, ce n'est pas exactement les mêmes motifs. Et donc, j'y vois quand même de la symétrie par rotation, c'est-à-dire qu'instinctivement, moi, je modélise, et je remplace ça par un objet idéal mathématique, un cercle ou des secteurs angulaires, mais j'y vois de la symétrie quand je vois une figure pareille, parce que je suis mathématicien peut-être, parce que j'ai ce regard un peu déformé sur les objets, de vouloir absolument y coller des maths, j'y vois de la symétrie. Je vois également des fonctions, des paraboles et des hyperboles ou encore des fonctions cosinus hyperboliques, avec des chaînettes et des fonctions mathématiques qui interviennent. Ici, c'est la Sagrada Familia faite par Gaudi à Barcelone. J'y vois, alors j'y vois des formes dans des amphithéâtres circulaires. Donc, je peux m'interroger derrière, pourquoi cette forme circulaire ? Est-ce que c'est effectivement la forme optimale ? Et puis même, j'y vois autre chose, c'est-à-dire que dans les gradins, j'avais vu cette... je crois que c'est Étienne Gis qui m'en avait parlé, il avait donné ça à un élève qui était venu en stage avec lui... Il y a la question, pourquoi les gradins ils sont cette forme ? Pour que tout le monde qui soit assis voit la scène. Est-ce que c'est la meilleure forme possible pour que tout le monde ne soit pas gêné par la personne qui est devant et que tout le monde ait accès à la scène ? Quelle serait la forme optimale donnée aux gradins pour que effectivement tout le monde voit bien et ne soit pas gêné par la personne qui est devant lui ? Toujours en modélisant, en se disant si la personne devant moi elle est toujours la même taille, etc. Quelle serait la forme à donner aux gradins pour pouvoir voir la scène ? Voilà des questions mathématiques qui me viennent. Que je connaisse la solution ou pas, c'est des réactions que j'ai face à des œuvres architecturales de cette forme. Pourquoi circulaire ? Pourquoi des gradins en pente ? Est-ce qu'il faut les faire monter un peu plus vite ? Pour quiconque est allé au Capitole à Toulouse regarder un spectacle, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous prenez au dernier étage, et là, vous êtes à la verticale sans place pour vous asseoir, parce que ça, c'est bien raide. Et effectivement, la forme, pour que tout le monde puisse voir, ça va monter de plus en plus vite. Des proportions, et je vais commenter un tout petit peu, mais là-dedans, on est en train de vous faire croire qu'il y a du nombre d'or derrière, et puis on va vous redonner du nombre d'or à toute sauce. Je ne sais pas si c'est la première chose que j'y vois, mais en tout cas, j'y vois des proportions qui sont les mêmes ici que dans ma carte bleue. Si je prends ma carte bleue et que je la colle devant là, l'écran, je verrai que ce sont les mêmes proportions. Le rectangle a des proportions. Quand je fais de l'architecture, il y a des proportions. Le choix des proportions a l'air important. En lien avec le spiral de tout à l'heure, je ne sais plus qui me parlait, justement, en architecture, des escaliers qui spiralent, ça m'évoque, vous voyez le mot que j'ai mis derrière, moi, ça m'évoque de la périodicité, des choses qui se répètent. Quand je monte d'un étage et je tourne encore, et j'ai une hélice, je la modélise là aussi. Cet escalier fait par Léonard de Vinci à Chambord, en double hélice, qui monte. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut se poser, des choses qui se répètent. Alors, puisque je parle de se répète, ben, je ne peux pas m'empêcher de penser à frise et à pavage, que l'on retrouve également en architecture. Ici, c'est une frise en graisse au sol, et ici, un pavage à l'alhambra. Voilà, toutes ces choses-là que je peux voir quand je commence à observer des constructions architecturales. Et puis, il y a plein de questions qui vont découler derrière. Le choix des couleurs, mais ça, c'est peut-être moins un regard mathématique. J'insiste toujours auprès des élèves qu'il ne s'agit absolument pas de leur dire que le regard mathématique, c'est celui à avoir sur le monde. C'est juste que moi, mathématicien, je regarde le monde avec mes lunettes de mathématicien et j'y vois des choses, là où d'autres seront intéressés plus par d'autres questions. Et c'est là que le travail avec l'artiste, ça peut être un travail sur les couleurs, ça peut être un travail sur des formes pas nécessairement mathématiques. Hein, voilà, c'est des questions qui se posent, certains regards portés. Balles et ballons, alors je crois que tout ce que j'ai pu mettre là-dedans a été dit, donc je vais pas en rajouter, je vais juste montrer des images. Typiquement, je viens moi dans les classes de maternelle avec les ballons, comme ça ils peuvent jouer avec. Et alors toute la difficulté après, c'est qu'ils ne jouent pas avec et qu'ils m'écoutent. Mais j'aime bien prendre le challenge. Donc ils ont tous des ballons entre les mains et faut pas jouer avec. Donc là, c'est les ballons de la Coupe du Monde et les ballons de foot de la Coupe du Monde. Eh ben, ils sont tous différents ou presque. C'est jamais le même. Et il faut effectivement avoir le ballon entre les mains, commencer à regarder. Alors on a des formes, hein, ils sont tous ronds, qu'est-ce que ça veut dire rond, mais restons-en à rond, ils sont tous ronds, ils ont à peu près tous la même taille. Mais si on commence à regarder les ballons de foot, et qu'on commence à voir ce ballon, ben moi j'y vois, et là encore on voit tout de suite que je modélise, je vois des rectangles. Le ballon est en fait, c'est des pièces qui sont cousues entre elles, et ici j'ai deux rectangles cousus entre eux, deux rectangles ici, et donc j'y vois des rectangles cousus entre eux, un peu déformés, parce qu'une fois que j'ai gonflé le ballon en cuir, les pièces se déforment, mais j'y vois des formes un peu, en tout cas, des quadrilatères. Si vous ne voulez pas que ça soit des rectangles, on dirait bien qu'il y a quatre côtés sur cette pièce de cuir avec quatre sommets. J'y vois des arêtes, c'est ce que le collègue disait en disant on y voit des polyèdres. Celui-ci, j'y vois plutôt 1, 2, 3, 4... 4 et 4, 8, j'y vois des octogones. Et puis j'y vois je vois des octogones collés entre eux. Donc ce n'est pas tout à fait la même forme, ce n'est pas le même polyèdre. Ici, c'est le plus connu, là où on a des pièces. Et donc on peut compter, on peut commencer à voir et compter le nombre de côtés sur les faces et voir qu'il y en a qui ont 6 côtés, d'autres 5 côtés. C'est l'occasion de parler des polygones. Et de se dire qu'il y a 12 pentagones et 20 hexagones en l'occurrence. De se dire qu'on peut modéliser, idéaliser la chose en un polyèdre. Ce ballon-là, c'est, voilà, avant d'être gonflé et d'être bien rond, c'est des pièces qui se sont assemblées et c'est plutôt un polyèdre. C'est donc un ballon plus géométrique. C'est l'occasion de parler de formules mathématiques sur laquelle je vais passer très vite. Formule de l'air qui... Ça, c'est quand je suis en terminale que je peux parler. Je ne parle pas de ça avec les élèves de maternelle. En maternelle, ce qu'on se contente de faire, c'est d'essayer de demander aux élèves, même les plus jeunes, de prendre la craie, de venir au tableau et de dessiner la forme de la pièce. Ce qui est déjà dur. Et on voit ceux qui dessinent un ovale et ceux qui commencent à essayer de tracer un truc avec des angles, qui ont repéré que dans la forme, il y avait des côtés et qu'il y a des angles. Voilà, donc ça peut. On voit des choses. Et puis, on peut commencer à compter les côtés, évidemment, les faces, là, c'est plus dur, il y en a trop. Alors, on prend des gommettes, on colle les gommettes sur le ballon pour essayer d'avoir des stratégies de dénombrement. Voilà, un prof de maths, il ne peut pas s'empêcher de commencer à parler de stratégie de dénombrement. Le ballon de rugby, qui, lui, a que quatre faces collées entre elles, et puis, en plus, il n'a pas la même forme que les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on voit encore? Donc, comme on a dit, les polyèdres, c'est l'occasion de parler de polyèdres réguliers, éventuellement, et puis de se demander quelle est la liste. De voir qu'il y a un rapport avec les jeux, avec les dés. Et puis là-dedans, il y a un intrus. Je ne sais pas si vous trouverez l'intrus. Est-ce que quelqu'un voit quel est l'intrus? Le dé à 10 faces, parce que ce sont pas des les faces ne sont pas des polygones réguliers. Donc il est là-haut, en rouge. C'est pas un solide de Platon, c'est un intrus. Voilà, il y a des solides archimédiens, on prend les solides... De tout à l'heure, on leur tronque les sommets, puis on va trouver, alors je ne sais plus, le ballon de foot, où est-ce qu'il se trouve. Quelqu'un voit le... Il est ici. L'icosaède tronqué. Voilà. Et puis se demander, ah bah alors, est-ce que tous les autres ils sont réalisés par les ballons de la Coupe du Monde de foot, ou est-ce que, voilà, lesquels sont réalisés dans la Coupe du Monde? Alors... On peut regarder. Voilà, c'est l'occasion aussi de parler d'autres choses. Celle-là, elle n'a pas été signalée quand je fais, un ballon et que j'y trace des hexagones et des pentagones. Vous verrez que si vous collez ensemble des hexagones et des pentagones pour former un ballon, vous aurez toujours 12 pentagones. Vous pouvez avoir beaucoup d'hexagones, mais vous avez toujours des pentagones. Alors, c'est l'occasion d'aller voir ici des choses. Alors, on ne voit pas bien la géode et de se demander où est-ce qu'ils sont les pentagones, parce qu'il doit y avoir des pentagones quelque part. Ben, allez, on va les chercher. Il n'y a pas que des hexagones. Là, pareil, celle-là où on voit un peu mieux les choses. On dit, ben voilà, ici, je vois la structure d'un pentagone. Ici, parce qu'il y aura toujours des pentagones, on ne peut pas avoir que des hexagones. Ici, ça ressemble plutôt à un hexagone. Mais on doit avoir des pentagones et on doit en trouver 12. Alors peut-être qu'on n'en a pas 12 parce qu'on n'a que la moitié ici. Mais on doit en trouver. Et puis dans la nature aussi, alors, balle de golf, là où on voit aussi ces structures, même dans la balle de golf, on voit des petits trous et on voit ces structures hexagonales. Donc là aussi, il faut trouver les pentagones. Il y en a forcément, théorème mathématique. Même dans la nature, je ne sais pas si vous avez vu des images de cornuiers du Japon, qui a des fruits qui ressemblent à ça. Et si je grossis sur le fruit, vous voyez que la nature fait aussi des jolis ballons de foot. Et que là, il va falloir aussi trouver ces pentagones. Alors, je ne sais plus où est le pentagone. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, je trouve des pentagones quelque part. Voilà, donc avec le monde réel, on retrouve aussi, mais réel, c'est-à-dire pas seulement fait par l'humain, hein, c'est dans la nature, on trouve des fruits qui nous rappellent ces polygones. Voilà, je passe vite là-dessus. On a dit, voilà, ça c'est un cube. Il y a un joli article d'Étienne Gis sur le site Image des Maths qui explique pourquoi le ballon de la Coupe du Monde de foot du Brésil est un cube, en fait, avec 6 faces, chacune ayant 4 sommets, 1, 2, 3, 4 sommets, 4 arêtes. Alors les arêtes, elles sont un peu courbes, mais ça c'est pour lui donner, quand on recolle, sa forme sphérique, ou presque sphérique. Et donc il a vraiment la structure d'un cube. Et il faut se convaincre que, faut déjà savoir que ces cubes, ça a 6 faces, que chaque face est un carré à 4 sommets et 4 arêtes. On peut compter une fois collé ce que ça donne. Voilà, quand on le recolle, hop, ça va nous donner notre ballon. Le ballon de foot de la Coupe du Monde en Russie, ils se sont amusés à avoir un polygone beaucoup plus complexe. Hein, mais c'est encore un cube. Parce qu'on a beau faire son arête qui, au lieu d'être incurvé, rejoint ce sommet à celui-là, en fait, une fois qu'on a découpé, hein, vraiment le ballon de la Coupe du Monde en Russie, c'est aussi un cube. Ils n'ont pas été très originaux. Ils ont repris celui le Brazuca du Brésil et puis ils ont remplacé les arêtes curvilignes par des lignes polygonales. Un ballon de basket. Voilà, chaque ballon a sa propre structure. Si on commence à demander aux élèves de tracer au tableau la forme de la pièce qui est ici en 3D, alors il faut s'imaginer la déplier pour se demander quelle forme elle peut avoir à plat. Pareil pour la balle de tennis, c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes, ce travail mental de passer de la 3D à la 2D. Ballon de volley, il y en a différents types, des ballons de volley aussi. Chacun, on m'a parlé aussi des trajectoires et de la chronophotographie, c'est ça. Et on peut prendre l'image, la mettre sur son fichier GeoGebra et chercher la courbe. Alors, je passe sur la formule mathématique. Savoir si le ballon va tomber dans le panier de basket. Donc la courbe, la parabole, on a juste les paramètres pour voir que ça suit bien une trajectoire parabolique. Et puis si on veut se tirer une balle dans le pied, on peut se demander est-ce que la trajectoire des ballons, c'est effectivement une parabole comme on me l'a appris à l'école. Donc on va regarder des sports un peu plus intéressants que le foot, comme le rugby par exemple. Et là, la trajectoire, elle ne ressemble pas du tout à une parabole. Et puis si on peut faire pire, on peut aller faire du badminton. Et la trajectoire dans le badminton, ça ne ressemble pas du tout à une parabole. Donc voilà, ça, on est encore dans un travail sur la modélisation, éventuellement, se demander si c'est un bon choix de modélisation, de modéliser par une parabole ou pas. Ici, une explication qu'on pourrait donner, c'est qu'il y a de la résistance de l'air qui freine, qui fait que ça tombe plus vite et que ça ne suit pas une trajectoire vraiment parabolique. Et on peut faire un lien avec éventuellement le cours de physique, mais je n'irai pas jusque-là. Mais faire observer, se poser la question, se demander à quoi ressemble la courbe. Historiquement, ça a été fait aussi pour les boulets de canon, pour savoir jusqu'où on pourrait... Moi, je fais ça aussi. Quand je fais des appels à projets pour avoir des financements, je prétends aux politiques que je vais l'aider à stabiliser ces centrales nucléaires pour pas... pour pour faire croire que je fais des choses intéressantes. Bref, importantes, pardon. Intéressantes, ça, j'en doute pas. Les spirales, voilà, donc des images de spirales. Il faut que je fasse attention. Non, un peu de temps. Donc, les spirales, bon, on m'a dit aussi plein de choses sur la spirale de Fibonacci. Donc, effectivement, on peut commencer, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on peut commencer à compter quand on voit des... Donc, déjà, il s'agit là aussi avec les élèves. En général, quand ils sont jeunes, quand ils sont à maternelle, j'y vais avec plein d'objets. J'y vais avec des carottes, j'y vais avec des haricots verts, j'y vais avec des pommes de pin, j'y vais avec des choux romanesco, j'y vais avec des tomates, j'y vais avec des pommes, et je leur demande de classer les objets par famille. Et ils ont le droit de classer comme ils veulent. Alors, il y a ceux qui m'embêtent, qui classent ça par couleur, ou qui classent ça par taille, et puis il y en a toujours qui me sauvent et qui classent ça en disant « Ouais, là, c'est, ça tourne !» Voilà, et donc on fait émerger un peu que dans ces familles, il y a des choses toutes droites, comme les carottes et les haricots verts, et puis il y en a d'autres qui tournent. Et c'est comme ça qu'on commence à voir, quand on fait des classifications, qu'ils ont des points communs. Et puis, je ne sais pas si ça se voit bien là-dessus, on va voir, on peut commencer à dire « Bon, ici, j'ai des spirales. » Alors, si je veux tracer sur ma spirale, pourquoi j'ai... Hop. Et je peux dire « Ici, j'ai quelque chose qui tourne. » Alors, on va le tracer en plus gros. Voilà. Ici, j'ai une spirale qui tourne. Et puis là, j'en ai une deuxième. Et je peux compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'ai 13 spirales. Et puis si je vais dans l'autre sens, je ne sais pas combien je vais en avoir, on va voir. Je peux les tracer dans l'autre sens. Alors dans l'autre sens, elles se voient moins, hein, les vilaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 8 spirales dans l'autre sens. Et ce qu'on constate quand on fait ça, eh ben on trouve toujours, on m'a parlé de la suite de Fibonacci, on trouve toujours des nombres qui appartiennent à la famille 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, là où chaque nombre s'obtient en sommant les deux précédents. Donc le suivant, 21 plus 13, ça serait 34. Alors je ne sais pas si je vais être patient jusqu'à aller jusqu'à 34, mais si on joue au même jeu en comptant les spirales, donc pour ça la tablette c'est bien parce qu'on peut dire, tracer dessus directement, et on peut commencer à tracer ces spirales et les compter, et là pour le tournesol on va trouver 21 et 34 spirales. Et puis je peux m'amuser à faire autre chose, voilà, je peux observer là d'autres spirales, hein. On y va avec des coquillages pour observer ces spirales là, avec une ammonite, un peu de fossiles, avec des cyclones. Ici, une image de la Terre, on voit un cyclone ici sur lequel je peux agrandir. Et j'ai l'impression d'y voir quand même des spirales qui se dessinent. Un ciel étoilé, où est-ce qu'elles sont les spirales ? Les galaxies. Donc si je zoome avec le télescope Hubble, j'y vois bien plus qu'à l'œil nu. Et si je continue de zoomer, je vois des jolies images de galaxies dont certaines ne sont pas tellement spirales, mais d'autres galaxies sont spirales. Donc c'est l'occasion de montrer des jolies images dans le monde. Voilà, une galaxie spirale, de distinguer à nouveau dans mes galaxies. Il y en a qui sont spirales, pas spirales. Alors là, ce que j'aime bien dire quand je parle du nombre d'or ou quand je parle de... Bon, on va voir quelles sont mes notes. Hop, tac, c'est passé assez vite. C'est comment je construis ma spirale. Pareil, on peut leur faire dessiner des jolies spirales. Donc je prends deux carrés côte à côte et puis après, je vais petit à petit... Plutôt que de faire une suite de Fibonacci où je calcule des nombres, je fais un dessin où à chaque fois je vais remplacer la figure suivante par un carré, hein, sur le côté qui précède. Alors ici pour faire un carré, tiens d'ailleurs je peux m'y prendre mieux, mais c'est pas grave. J'aurais pu prendre comme ça. Hop. Et là, et puis je pourrais même, voilà, et je peux continuer comme ça. Bon, là, ça sera pas assez grand. Je pourrais même faire comme ça. Là, ça va me faire un rectangle. Bref, et je compte le nombre de côtés dessus. Le dernier, j'ai oublié. Et je peux tracer ma spirale après en rejoignant par une approximation par des demi-cercles. Et ça me fait une jolie spirale. Voilà, et je peux continuer ainsi pour dessiner ma spirale. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand je la colle sur les différentes spirales qu'on avait précédemment, ben, ça ne colle pas trop mal. Hein, on a à nouveau nos nombres de Fibonacci, nos spirales de Fibonacci, qui ne collent pas trop mal à ce qu'on observe ici dans la nature, sur les images. Voilà, donc je crois que j'arrête là. Hein. Donc voilà les mathématiques que je vais observer derrière. Et puis après, j'essaye pas. Vous remarquez que dans tout ce que j'ai donné, j'essaye pas trop de dire les maths vont expliquer pourquoi il y a une spirale avec 8, 5, 13. J'ai plutôt une approche de dire je modélise ce que j'observe grâce aux mathématiques. Ce que je n'ai pas mis dans cette présentation-là, c'est un autre aspect des mathématiques qui m'arrive d'évoquer aussi, c'est qu'on peut faire des œuvres artistiques principalement basées sur des maths. C'est-à-dire que là, j'ai proposé de porter un regard mathématique sur des objets, des créations artistiques, qui parfois ont été créés avec des maths dans la tête derrière. Mais il arrive aussi de regarder des œuvres artistiques basées sur des mathématiques. Et quelqu'un a évoqué tout à l'heure pour l'architecture la perspective. Alors moi, la perspective, je la mets plutôt dans la catégorie peinture ou dans la catégorie bande dessinée. Parce que si vous regardez des bandes dessinées, il y a cette idée de profondeur qu'on veut rendre, et le dessinateur, pour rendre l'idée de mouvement ou de profondeur, va utiliser ses propres techniques. Et certains dessinateurs, Hergé pour Tintin par exemple, utilisent des techniques qui sont clairement basées sur les règles de la perspective à point de fuite qu'on utilise. Alors je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Non, je ne l'ai pas préparé, donc vous n'y aurez pas le droit, à moins que... C'est dans quoi ? C'est dans... Si, je dois l'avoir, par exemple, là, je pense. Si, je vais chercher un petit peu. Hein, regardez, ça, c'est une œuvre artistique créée pour avoir sur la symétrie. Voilà, ça, c'est Tintin. Quand on regarde... comment Tintin, les planches de bande dessinée sont tracées quand on a des choses à perspective. Donc on importe son fichier sous le bras, on fait tracer les lignes qu'on observe qui sont censées être parallèles, que ça soit sur le sol du bateau ou sur le bord du bateau ici. Et je ne pense pas que ce soit un hasard, je ne pense pas qu'il ait fait ça à main levée sans avoir fait le calcul mathématique pour s'assurer qu'il y avait bien un point de fuite. Voilà, et pour... Chez Hergé, c'est systématique. Dans ces différentes planches, quand il y a de la perspective, il respecte cette règle. Alors que dans Astérix et Obélix, la règle, elle n'est pas respectée. C'est un peu approximatif. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une BD qui... Je redis ce que je disais tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il y a une BD qui est meilleure que l'autre. Ça veut dire que pour rendre cette règle de profondeur, on peut faire le choix de respecter des règles de perspective ou ne pas faire ce choix, prendre un choix différent. Hein, donc ça... Ce qui importe pour moi, c'est de porter le regard mathématique là-dessus et éventuellement de m'interroger, tiens, est-ce qu'il a respecté la règle ou pas ? Voilà, c'est plutôt à ça que je joue quand je regarde une BD et que je fais un peu de maths en regardant une BD. Voilà, je m'arrête là. Oui.
On n'a pas eu le temps, en une heure, on ne peut pas vous montrer toutes les œuvres. Vous pouvez aller sur le site de l'asso et vous verrez le travail des élèves et des collègues sur différents thèmes. D'accord ? Voilà, merci encore.
Oui, j'enverrai, on enverra les deux diaporamas à... Ou même mieux que l'envoyer, tu peux les récupérer si tu as une clé USB. J'enverrai par mail.
Normalement, c'est filmé, mais là, vu que c'est fait avec la tablette, je ne suis pas sûre qu'on ait le film synchrone avec l'audio. Mais voilà, en tout cas, on s'en rendra pour avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question. Pourquoi ?
qui m'est déjà venu à l'esprit quand on regarde Géomètre, etc. Pourquoi Géomètre? Parce que ça me... Enfin, voilà, c'est une branche des maths, mais...
Moi, j'ai aucune idée. Bon, c'est... Non, il y a une vraie raison pour laquelle c'est regard de géomètre, ou c'est que ça fait plus fun que regard de mathématicien. Déjà, c'est neutre. Il n'y a pas à se poser la question si c'est un regard de mathématicien ou de mathématicienne. C'est un regard de géomètre. Mais après, je ne sais pas si... Non, effectivement, on peut regarder avec des... Quand on va commencer à mettre des nombres, hein, c'est plus... assez vite, on est en fait en train de parler de mathématiques et pas forcément de formes géométriques, mais...
Alors, par rapport aux élèves, quand vous leur parlez de mathématiques, ils vous parlent de calcul, tout le temps. Quand on était au festival, dès qu'on leur demandait... Parce qu'au festival, quand ils venaient, on leur demandait en entrant au festival, on leur donnait un post-it et on leur dit « On vous dit maths, à quoi vous pensez ?» Bon, il y avait plein de mots négatifs. Puis il y avait le mot calcul, nul, etc., difficile. Puis après, c'était calcul, la notion géométrie, les formes, etc. C'est comme si... ils n'avaient jamais vu où ça partait. Et donc, quand on a proposé ce projet avec les mots, bah, c'est aussi faire le lien avec cette richesse de la géométrie auquel on peut faire associer quand même les nombres, mais qui est très peu vue par les élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas la première chose qu'ils vont dire. C'est vraiment le... Et ça, c'est un constat par rapport au festival. Et puis, voilà. Ils n'en font pas beaucoup, donc c'est aussi une des raisons. Voilà. Ils en font...
Et l'informatique. Non, mais par contre, ils font moins de géométrie.
Est-ce que vous faites travailler les élèves sur la notion d'esthétique, du coup, et de quelle manière ?
Quand la classe va choisir le domaine artistique, on va essayer de trouver un artiste associé. Donc si une classe veut faire une scénette, on va essayer de soit trouver un comédien, soit un metteur en scène. Si une classe veut faire la cuisine, là c'était l'hôtel, l'art culinaire, il faut qu'on essaye de trouver un artiste dans ce domaine-là. Et donc là, on est en train de lister plein d'artistes. Donc soit on contacte les maisons des artistes, soit on est associé avec la DAC, par exemple à Bordeaux. Ils sont à la DAC de Bordeaux. S'il nous manque des artistes, ils vont nous proposer des artistes. Et donc c'est selon le souhait de la production qu'on va chercher des artistes. Et on fait comprendre aux enseignants de laisser les élèves s'exprimer par rapport à à ce qu'ils souhaitent faire. Et après, c'est leur faire comprendre que c'est une production collaborative. Donc, il y aura plein d'idées vous allez avoir plein d'idées. Et après, c'est d'arriver à un.
Dans le sorti, c'est musicien, il y a musicien. Je voulais juste rebondir par rapport à la dernière phrase d'Ouria. Il y a une chose qu'on doit faire de temps en temps avec les professeurs, c'est bien leur expliquer que c'est les élèves qui doivent chercher. C'est pas le prof qui détermine tout et qui dit quelle va être la production à l'arrivée et les choix artistiques des élèves. Et c'est très important que de réussir à faire émerger les choses venant du groupe des élèves, parce qu'ils en sont tout à fait capables.
Ce qu'on essaye de dire au départ, quand on a fait les réunions avec les collègues là, qui font les projets, c'est le mot. Soit c'est le prof qui a choisi le mot, donc c'est qu'il a une idée de projet. Moi, j'ai eu des collègues qui m'ont dit « Moi, j'ai envie de faire ça et ça ». Je fais « Oui, ça, c'est tes envies, mais tu as quand même une classe, tu as quand même 30 individus différents, avec des idées, avec une culture qui est complètement différente et surtout une sensibilité ». Dans ta classe, t'as peut-être des musiciens, t'as peut-être des jeunes qui font du théâtre, t'as peut-être des jeunes qui font du dessin. Donc, ils font partir de ça. Et donc là, les premières séances du projet, c'est de vraiment leur poser la question, leur faire comprendre que dans les domaines, les arts majeurs et les arts des métiers existent, donc leur lister, leur dire, voilà, quand on parle d'art, il y a tout ça. Si on est à l'école premier degré, si on est en collège, on peut travailler peut-être avec le professeur d'art plastique, leur montrer ces possibilités d'œuvres, et après leur dire, voilà, qu'est-ce que vous connaissez de ce mot? Qu'est-ce qu'on a fait un peu avec vous, mais passer plus de temps artistiquement, puis mathématiquement. Quand on travaille sur le mot au départ, je ne viens pas en tant que prof avec une activité, je vais plutôt demander ce qu'ils savent, eux, élèves, si j'ai des élèves de 5e, j'ai choisi jardin, qu'est-ce que ça leur représente, est-ce qu'ils, par rapport au monde artistique, par rapport au monde mathématique, et quand ils ne savent pas, on peut nourrir leurs connaissances avec quelques images. Au départ, c'est vraiment ça. Et après, leur montrer des exemples qui ont été réalisés et leur dire, vous savez que ce projet, c'est qu'il y a une production qui viendra de la classe. Et on aura dans ce projet le travail avec l'enseignant et les élèves, mais aussi les interventions. Et cet ensemble de tous ces intervenants-là, et nous, le « nous », c'est on doit faire une production, une seule production. Donc là, tu vas me dire peut-être que ce n'est pas très concret, mais c'est... Au moment où l'élève ou les élèves sont acteurs du projet, où ils sont dès le départ, où ils commencent à s'exprimer dès le départ, et puis chaque fois à faire des propositions. J'ai fait ce projet. Moi, j'ai eu des élèves qui sont venus des fois avec des choses de la maison, alors que j'avais pas pensé. Des élèves qui m'ont montré. Après, moi, je dessine. Ils m'ont montré des dessins. Je découvre mes élèves autrement. En tant que prof de maths, via ce projet, je les découvre peut-être comme le prof d'art plastique ou le prof de musique. C'est-à-dire que je vais connaître les activités qu'ils vont faire à côté.
Ça veut dire notamment qu'il faut vraiment l'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que si on se dit « Ah, bah, y a le colloque qui va arriver dans un mois, il faudrait que je m'y mette », ça ne marche pas. Il faut avoir une première séance en début d'année où on explique qu'on va faire ce projet, où on demande aux élèves de commencer à réfléchir, avoir une séance où il y a un retour. Et s'il n'y a pas de retour, c'est là ce que disait Auria, on peut proposer des images de production. C'est pour ça qu'il y a le site notamment, de dire voilà ce qui a été fait par d'autres. Est-ce que ça vous donne des idées? Et en général, il y a de la variété. Mais assez souvent, dès le premier retour des élèves, il y en a qui arrivent avec des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait voir derrière, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Voilà. Et le rôle de l'enseignant, ça sera peut-être de questionner, ah oui, et là, est-ce que ce que j'ai fait sur la perspective tout à l'heure, justement, de dire, est-ce que c'est vraiment dans l'architecture que je mettrai le choix de perspective? Est-ce que c'est pas plutôt une manière de représenter, plutôt que, quand on va parler d'architecture, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être pas tant la maquette qui va être une représentation que, voilà, ou de s'entendre, ou de, voilà, d'essayer de diriger un petit peu. Évidemment, l'enseignant a une idée derrière la tête, et puis c'est très bien aussi diriger un peu ses élèves pour l'orienter, mais l'idée de dire on n'arrive pas avec un truc tout prêt pour que les élèves aient leur place dans leur choix est importante. Et après, pour répondre à la question de Christine, je ne sais pas si tu demandais collectivement au niveau de l'association, donc Auria a répondu. Moi, en tant que mathématicien, c'est vrai que je vais pas me... Je réalise quand tu me poses la question, je ne prends jamais une position sur le côté esthétique. Sur est-ce que telle et telle technique, telle et telle manière de représenter a fait que c'était plus esthétique. Alors, je ne pense pas que je pense que j'essaye de la communiquer, en fait. Parce que quand je vais raconter ce que je fais, ce que je vois, ce que j'observe, j'ai toujours une manière de dire je trouve que c'est joli, je trouve que c'est beau, et ce que je fais comme maths, il y a ce côté esthétique. Mais c'est vrai que je communique pas nécessairement directement. C'est-à-dire, mais c'est vrai que à travers, je vois les choses, je crois que j'ai toujours cette position quand je présente de dire je trouve que les maths c'est beau. Voilà, je trouve, on parlait tout à l'heure des empilements de sphères et de se poser la question quel est l'empilement optimal. Voilà, c'est des questions où derrière j'ai effectivement moi en tant que mathématicien cette approche esthétique comme toi. Enfin, voilà.
L'objectif comme du projet, c'est quand même d'amener nos élèves à être capables de parler de mathématiques sans qu'ils se disent je ne peux pas en parler parce que j'ai des difficultés ou pas. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à travers le monde artistique, on en parle facilement. On peut parler facilement de musique, on peut parler facilement de littérature, etc. C'est de permettre à nos élèves, à travers une œuvre ou à travers une image, une musique, etc., de pouvoir parler de mathématiques. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de dire aux élèves, c'est pas parce que les mathématiques n'appartiennent pas aux experts. On peut en parler. Et donc, l'esthétique, oui, parce que j'adore la partie montrer des images belles ou quand ils font des constructions ou quand on veut décorer pour la semaine des maths l'établissement. Ils vont l'amener, les élèves. Et ce que moi, quand j'ai commencé à faire ces projets avant de faire l'assaut, avant de faire ce projet dans l'assaut, etc., ce que j'ai découvert que ça me permettait de mieux connaître mes élèves, dans leur, de mieux connaître les élèves que sur à travers d'une résolution de problème, à travers tu vois, le programme, etc. Je découvrais l'élève qui faisait des belles... Comme on avait un projet artistique, ben, il venait avec ses croquis. Alors que dans ses croquis, normalement, il le montrait au prof d'art plastique. Alors que là, il me les amenait à moi. Et c'est cette richesse-là que je découvre à travers ce projet. Et le retour des collègues quand ils font ce projet, ils ont ce retour. C'est-à-dire qu'ils ont ce nouveau regard des élèves. Qu'ils soient en difficulté ou pas, il y a ce nouveau regard. Et au moment où ils sont très acteurs, et quand ils savent qu'ils ont cette production, imagine, tu fais une production qui va être mise dans un musée, qui peut être vue par beaucoup de monde pendant une semaine. Tu peux en plus au colloque présenter tes choix, t'as des conférences à Arémat, mais l'idée de faire une production qui va être exposée dans un lieu comme un artiste, vous êtes des apprentis artistes, moi je les ai vus quand on pouvait faire des inaugurations, là pour le moment on ne peut pas en faire, il fallait voir le regard des élèves avec le papa qui venait, mais c'est moi qui a fait ça, mais si tu veux on parle de, on met du plaisir dans les mathématiques, et là, waouh. Eh ben, ouais, c'est ça, je finis par cette phrase, mettre du plaisir à travers les mathématiques. Et pour moi, c'est... voilà, c'est je parle de ma sensibilité, mais c'est ce besoin-là. On a tellement de décrocheurs, on a tellement de... Eh ben, tous les élèves, même un élève qui est très scolaire, ben, peut-être qu'il n'a même pas ce regard-là. Tu vois, il est peut-être trop scolaire. Et donc, c'est amener à travers ce projet, on essaye d'amener ça. Et voilà. Après, on a des classes. Les collègues qui... on est enseignant, donc on peut avoir des classes difficiles, etc. On peut... Mais s'ils ont compris un peu l'idée du projet, si c'est fédérateur, je pense que ça peut suivre. Après, on a de tout. Je n'ai pas dit que le projet fonctionnait tout le temps. Il peut avoir des difficultés parce que le prof voulait faire sur une période et puis il a vu que ce n'était pas possible. Moi, ce que je demande à mes élèves, c'est qu'ils ont le cahier de recherche et à la fin de leur cahier de recherche, ils marquent leurs idées. Dès qu'on fait une séquence, ils ont le droit de marquer une idée. Au départ, ils doivent, par exemple, j'avais fait architecture, j'ai demandé d'aller faire des recherches. Et j'avais travaillé avec la professeure documentaliste pour qu'elle leur donne accès à la salle. Elle avait trouvé des livres, elle avait mis des livres accessibles à ces élèves-là. Et donc, il fallait que chacun puisse présenter ce qu'ils avaient vu sur ce thème-là, avant même qu'on ait un artiste, avant même qu'on commence le projet. Je voulais savoir ce qu'ils avaient chacun, sur le mot architecture, comme vous avez fait, bah, qu'est-ce que chaque élève a voulu présenter sur ce thème-là. Comment ils le voyaient. Et à partir de là, on a commencé à travailler le projet via nos séquences. Et dans le cahier, à la fin du cahier, on leur demandait d'écrire à chaque séance ou quand on en travaille, on ne va pas le faire tout le temps, mais dès qu'on pouvait en parler, je leur dis, pensez, ah oui, lui, il a dit ça, mais notez-le. On en reparlera quand on sera dans le projet, quand on sera intervenant de chercheur, quand on pensera à cette séance. Et ce qu'on demande aux collègues, c'est vraiment d'avoir ce cahier de bord pour faire noter les élèves. Et puis, vous avez des élèves qui vont venir avec des idées. Et donc, ça, c'est intéressant. Il faut les prendre.
Moi, pour revenir sur la question, est-ce que tous les élèves adhèrent ? Je pense que tous les élèves n'adhèrent pas, mais ça fait de la richesse, ça fait des approches variées, différentes, et on arrive à en capter quelques-uns qui ne seraient pas captés par ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas ce qu'ils veulent, parce que ce qu'ils recherchent dans les maths, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus... Voilà, ils veulent pas le lien avec le monde réel. Donc il y a de tout, hein.
Ça dépend des projets. Par exemple, là, on a une collègue qui nous a envoyé un mail. Ils ont dans leur établissement une semaine Arémat. Elle veut mener son projet sur cette semaine-là. Donc, donc il faudrait que l'intervenant artistique et l'intervenant scientifique arrivent en même temps. Mais en amont, elle va travailler ça. Il y a des collègues qui vont travailler sur 2-3 séquences. D'autres, c'est sur l'année scolaire. On n'impose rien du tout dans le projet pour donner cette liberté. Après, la seule chose qui est imposée, c'est qu'il y a une réalisation artistique qui doit être exposée et la réalisation du cartel avec les mots des enfants.
Et la date.
Et la date. Mais nous, on leur donne... Le cartel, c'est les mots des enfants. C'est pas le mot de... Même en maternelle, le prof va faire exprimer les élèves sur leur... Et puis, on y note. Mais c'est les mots des enfants. Et ça, c'est important. Et on le voit la différence quand c'est le prof qui écrit et on a eu des cartels où on voit que c'est le projet du prof. Et là, pour nous, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi.
Mais ça prend du temps entre le temps de
Oui. Bah après, tu es en lycée, tu es en collège. En collège, bah, tu peux travailler avec d'autres disciplines. Tu peux travailler avec le professeur documentaliste. Donc voilà. Par exemple, moi, sur le projet que j'avais fait sur Illusion, ça a été fait en fin d'année. Ça a été, donc c'était vraiment à partir du mai-juin, donc sur les deux mois. Et on avait prévu une visite d'UNESPO. On avait eu la conteuse qui était venue en amont et le chercheur était venu aussi. Donc j'avais placé les. Et puis les élèves se sont amusés à s'entraîner à faire des illusions. Et c'est après l'idée de l'œuvre, bah c'est plutôt l'idée de l'œuvre, au moment où on sait l'œuvre, ce qu'il souhaite faire, c'est là que ça avance. Et tant que tu n'as pas cette idée-là, bah tu. Et puis il ne faut pas imposer. Donc tu vois, tu te retrouves entre oui, j'ai une date, mais en même temps, il faut qu'il fasse l'œuvre. Et c'est cette partie-là qui est un peu difficile. Sans que tu te retrouves à dire bah, allez, je guide et on fait ça.
En parlant d'œuvre.
Voilà. Mais merci beaucoup. Voilà.